Vous écoutez
RMC. RMC, les meilleurs moments de Rotten sans flamme.
Benoît Boutron.
Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur RMC, les meilleurs moments de Rotten sans flamme. C'est votre émission foot de référence du lundi au vendredi de 18h à 20h avec Jérôme Rotten qu'on embrasse et avec toute la Dream Team. Eric Dimeco, Christophe Dugarry, Jean-Michel Larquet, Manu Petit, Younes Belhanda, Benoît Costil, vous les connaissez tous, Jean-Pierre Papin. Tout le monde sera là de retour dès la semaine prochaine et on continue de revivre ensemble les meilleurs moments de cette première partie de saison avec pas mal de bonnes choses. Aujourd'hui, vous allez le voir, on va réentendre Florentin Pogba qui était venu nous donner des nouvelles de son frère Paul lorsque Paul n'avait pas repris la compétition avec l'AS Monaco. Un grand moment qu'on avait vécu avec Jean-Michel Larquet et Manu Petit. Nous allons revivre un procès mythique, le procès d'Antoine Griezmann, accusé d'avoir gâché sa fin de carrière en prolongeant à l'Atlético de Madrid. Mais retour sur une émission du 13 octobre. Un débat enflammé avec Jérôme Rotten, Christophe Dugarry, Eric Dimeco. Est-ce le bon moment pour officialiser Zinedine Zidane à la tête des Bleus? Écoutez.
Je sais que ça peut pas toujours être extraordinaire, mais est-ce que je suis en droit de réclamer des grands matchs?
Il faut sentir les choses, il faut les vouloir. Je sais ce que je veux aujourd'hui et ce que je ne veux pas.
On en a marre de s'ennuyer à regarder jouer l'équipe de France. Et moi, ça me gonfle.
J'ai mon avis là-dessus, mais c'est pas ce qui m'intéresse.
J'espère que ça arrivera un jour, ça sera en 2026, je le souhaite du fond du cœur.
Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus que pourquoi pas?
Deschamps, je n'aime pas, voilà, j'apprécie pas sa façon de faire jouer ses équipes.
Si vous voulez parler d'autre chose, vous me parlez d'autre chose.
Je trouve que c'est une aberration et une honte pour le football. J'ai mal à mon football.
Du gars, moi je le trouve bon dans tout, il est très intelligent, enfin beaucoup de choses. Oh. Le seul truc, c'est que de temps en temps, il en ramène trop.
On verra ce sera le cas ce soir.
Pas mieux, hein. Moi je dirais pas mieux.
Zinedine Zidane était donc présent le week-end dernier au Festival dello Sport, c'est organisé par la Gazzetta. Il a confirmé ses envies de devenir sélectionneur de l'équipe de France. Rappelons pour ceux qui l'ignorent que Didier Deschamps quittera ses fonctions à l'issue de la Coupe du Monde 2026. Parlons-en avec la voix du foot sur RMC, Jean-Louis Tour, qui est à Reykjavik et qui commentera le match ce soir. Salut Jean-Louis.
Où, Jean-Louis?
Salut tout le monde.
Ravi de te retrouver. Salut, Jean-Louis. Tu seras là dès 20h. Oui. Alors Jean-Louis, qu'a dit Zidane exactement et quelle est la position de Deschamps là-dessus alors?
Alors Zidane a dit: je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais j'ai le sentiment de pouvoir faire quelque chose avec l'équipe nationale, c'est ce que j'aimerais faire un jour. Donc ça, c'était en Italie dans le cadre d'un événement organisé par la Gazzetta dello Sport. C'est pas la première fois qu'il laisse entendre que son avenir va s'écrire avec l'équipe de France. En mai dernier, autre événement organisé cette fois par son sponsor, il avait dit: je me sens légitime pour les Bleus, c'est un rêve, j'ai hâte d'y être. Même chose dans l'équipe en juin 2022, j'en ai envie et j'espère que je le serai un jour, sélectionneur de l'équipe de France. Alors au niveau des Bleus, évidemment, on dit que c'est pas un sujet pour le staff en place, pour Didier Deschamps, pour les joueurs qui sont là, eux mettent en avant la qualification qu'il faut aller chercher pour la Coupe du Monde. Philippe Diallo avait évoqué le sujet, le président de la Fédé, en se réjouissant de l'intérêt de Zidane pour les Bleus, mais il a bien dit qu'il ne voulait pas perturber l'équipe en place. Ouais. Donc pour l'instant, c'est la situation. On sait que Deschamps a dit que Zidane est un candidat naturel il y a quelques temps quand il était interrogé sur le sujet. Mais en tout cas, il faudra voir si la position de Diallo de ne pas perturber l'équipe va tenir plus l'échéance de l'arrêt de Deschamps se rapproche.
Est-ce le bon moment pour officialiser Zidane? 32-16 pour participer avec nous. Jérôme, est-ce que ça y est là? Il faut arrêter tout ça, dire non, mais... c'est bon, Zidane prendra la suite.
Non mais le bon moment, il l'est depuis que Zizou, il commence à communiquer. Du moins, c'est pas la première interview où il dit qu'il peut être intéressé par le projet. Là, il va un peu plus loin dans ce qu'il dit à la Gazzetta, c'est ça? Donc, écoute, qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il attend de perturber quoi? Parce que de toute façon, une fois qu'on sait que Zinedine Zidane est candidat pour prendre la suite de Didier Deschamps, il y avait que lui qui pouvait où le point d'interrogation il pouvait avoir lieu. Alors, rappelle-toi des débats qu'on a eu alors avec Dugas, on lui tire pas les verres du nez parce qu'on sait sa proximité avec Zizou. Non mais moi ça peut le mettre aussi en difficulté, mais peu importe, je parle même pas de ça, je parle de Jean-Michel Larquet l'année dernière. Il nous a dit là dans Rotten sans flamme: non, moi je vous le dis, il n'ira pas, il a pas envie. OK, bon, à l'arrivée il a envie. Donc maintenant qu'il a envie, Diallo, il n'y a pas une question de perturber, pas perturber. Tu l'annonces et après on passe à autre chose. De toute façon, on sait très bien que de toute façon, Didier Deschamps s'arrêtera quoi qu'il se passe à la Coupe du Monde 2026. Mmh. Les qualifs se passent bien dans ce groupe incroyable, tu vois. Donc normalement, en toute logique, peut-être que même ce soir, on est déjà qualifié pour la Coupe du Monde aux États-Unis. Bon bah écoute, après t'as encore quelques mois, t'as la trêve d'hiver là, même s'il y aura ces deux matchs cacahuètes qui servent à rien au mois de novembre. Après t'as la trêve et tu te retrouveras fin mars. Qu'est-ce qui t'empêche de communiquer ?
Bah oui, moi je suis d'accord.
Et en fait, je sais pas. Alors, est-ce que c'est un pacte qu'il a ? Parce que après, il y a ça aussi. Hein. On sait pas ce qu'il s'est dit. On connaît Didier Deschamps. Il est assez malin, Didier. Pour
est-ce que c'est lui qui décide à ton avis ? Est-ce que c'est Deschamps qui dit à Diallo : attends, pas maintenant, respecte-moi.
Écoute, s'il veut pas là-dessus saisir l'opportunité de cette interview en quelque sorte là. Ouais. C'est qu'il y a un accord avec Didier Deschamps. C'est que non, attends, ça va perturber le groupe, ça va me perturber. Et puis il aime bien, si tu veux, garder la lumière, Didier. Ouais. De toute façon, il serait pas resté plus de 10 ans à la tête de la sélection si cette lumière-là, il l'aimait pas.
Duga, est-ce que c'est le moment là ?
Oh, pas forcément, mais le moment d'annoncer quoi ? Tout le monde sait.
Ça y est, c'est fait, voilà.
Tu vois, Duga, il te le dit.
Voilà. Annoncer quoi ? Tout le monde sait que ce sera lui. Que tu veux que ce soit qui d'autre ? Après, c'est Deschamps qui va valider le planning. Voilà, comme a dit Jérôme tout à l'heure, c'est lui qui va dire voilà, écoute, j'ai peur que ça perturbe mon équipe, c'est pas le bon moment. Attends encore un peu. Bon, voilà, de toute façon, ça va rien changer. Ni à Deschamps. Ni pour Zizou qui se prépare, ni pour le président veut peut-être aussi en faire un événement, comme quoi il annonce, comme quoi il recrute Zidane aussi, peut-être qu'il va en faire des caisses, le président aussi faire venir Zidane dans l'équipe de France, c'est pas quelque chose d'anodin non plus, peut-être qu'il veut y mettre les formes, peut-être qu'ils veulent faire de ce moment-là un événement planétaire, parce que de toute façon ça sera un événement planétaire. j'en sais comment ils veulent le préparer, comment je sais pas trop, mais sincèrement qu'ils veulent l'annoncer ou pas, ça changera rien.
On non mais après ça pousse un peu hein, derrière.
Zizou a été candidat, il devenait l'élu. Et puis voilà.
Tout Duga, ça pousse un peu derrière. Il y a les Gérald Batic qui l'amène 2-0 là, le match avec les espoirs. Ouais. T'as Bernard Diomède qui est en demi-finale des U20.
Bah ouais.
Donc, tu vois.
Ouais, Thomas Coppa,
il a le choix. Hein. Vincent, non, c'est Jérôme, moi.
Désolé.
C'est pas grave.
Non, mais Duga, toi qui parles avec lui, qui est dans le secret des dieux, c'est bon. Lui, il sait dans sa tête que ce sera lui et que c'est fait et qu'il y a juste à l'officialiser alors.
Ah non, c'est moi qui sais que ce sera lui.
C'est toi qui sais que ce sera lui.
Moi, je sais que ce sera lui. De toute façon, mais tout le monde sait. Eric sait, Jérôme sait, toi aussi tu le sais.
Ben, oui,
si tu veux que ce soit d'autres.
Mais j'espère que le débat,
c'est pas celui-là, Benoît.
Voilà, sinon, on pourrait venir.
Non.
Parce qu'on le sait que c'est lui.
Alors, attention à Galette aussi.
Celui qui.
Vas-y. Celui qui est censé rendre le débat intéressant, c'est Eric, parce qu'Eric m'a dit ce matin, attention au timing, c'est soit maintenant, soit
non,
après
mais
la Coupe.
Voilà. Moi, si tu veux, on sait que ce soir,
c'est pas les émissions.
C'est vrai.
On sera. Peut-être plus que toi.
Qu'est-ce qui se passe ?
Je pense que c'est pas dur.
T'as vu ça, Jean-Louis, c'est incroyable.
Du gars, pour faire plus que toi, il suffit qu'il m'appelle à 14h, non, à 17h30, ça suffit pour faire plus que toi dans le boulot.
Non, mais elle a trop changé cette émission, prépare les émissions en amont.
Jérôme c'est 7h
non mais par contre
Duga, je reçois un message sur notre numéro WhatsApp, le 06 12 424 424. T'es pas le seul à te mouiller, parce que Raphaël me dit: je suis le neveu de David Bétoni, je peux vous dire que c'est officiel. Ah, tu peux nous le confirmer, Duga, ou pas?
Oh bah, il va être content.
C'est qui, Raphaël?
Bah, c'est le neveu de David Bétoni.
Non mais dis-moi,
toi tu balances à l'antenne comme ça.
Non mais Benoît, il a raison. Non mais Benoît.
Il a dit un texto, il l'a balancé.
Bah, il me dit sur WhatsApp d'RMC. Mais
Benoît.
Je suis le fils de Zidane, c'est bon.
Mais bien sûr, mais Benoît quand même.
C'est pour chauffer du gars, bien sûr.
Ah ben non, mais Benoît quand même, tu peux pas relier de trucs comme ça. Tu es journaliste, toi. Toi, tu es obligé de recouper les informations. Nous, on a le droit de dire des saucisses, mais pas toi quand même.
Nicolas Ledru, le producteur, a vérifié. C'est bien le neveu de David.
Oui.
Non mais Jean-Louis, toi qui es le chef de la cellule équipe de France d'RMC Sport.
Oui.
Quel est le climat ambiant? Est-ce qu'on parle de Zidane?
Pourquoi tout le monde rigole?
Là c'est la chute de cette émission
de merde, je te le dis. La voix du foot, on rigole. Le chef de la cellule, on rigole. C'est bon.
Non mais qu'est-ce qu'on en dit? Est-ce que tu sens que ça se fera vite, ou à ton avis, toi, ton sentiment, c'est qu'on attendra la fin de la Coupe du Monde?
Mon sentiment, c'est que c'est Deschamps qui décide. Et si Deschamps s'est mis dans la tête que ça peut perturber à 1% son groupe, bah, il n'y aura pas d'annonce de Zidane. Voilà, moi, c'est comme ça que je l'imagine. Ouais. Et par contre, j'ai un doute quand même, moi, sur les conséquences s'il y a une annonce. Je pense qu'on se fait un peu une montagne pour pas grand-chose. L'histoire Santini, là, c'est Jérôme qui peut en parler le mieux, mais il n'y avait pas le même rapport entre le groupe et le sélectionneur qu'entre ceux qui sont là et Didier Deschamps. Je veux dire, ils répètent tous qu'ils veulent offrir aussi une belle fin au sélectionneur. Ils ont vécu des choses avec lui de particulier. Donc moi je pense que même s'il y a annonce, par exemple en mars, il y aura plein de questions sur Zidane, c'est vrai, mais au moins le sujet sera évacué. Non, mais ce qui est plus, ça n'aura pas d'impact sur la Coupe du Monde.
Ce qui est plus,
après il y a un truc, sur lequel on pense pas aussi, c'est que Deschamps, comme tout le monde, marche un peu sur des pincettes avec Zizou aussi. C'est-à-dire que Deschamps,
ça fait mal de marcher sur des pincettes.
Il prend des pincettes.
Marche sur des œufs. Si l'autre joue à passer dans le moscato chaud.
Non mais c'est pas grave, avec plaisir. Alors là, y a pas de souci. Et si c'est que Deschamps, il va aussi vouloir passer le témoin, quoi. Tu vois, il va vouloir que ça se passe bien. Il va vouloir démontrer que voilà, il passe le témoin à Zizou et que ça se passe bien entre eux et que bonne chance. Tu vois, il va y avoir tout. Ouais, à mon avis, il y a aussi un truc comme ça. Deschamps, il va pas partir comme ça. Il va vouloir.
Ouais, peut-être un cérémonial, t'as raison, mais t'organiser quelque chose.
Mais
qu'est-ce que ça va changer?
Mais en fait, moi, ce qui me dérange à tout ça, c'est que, encore une fois, même si on le sait, mais c'est toujours dérangeant, c'est que le patron de l'équipe de France, c'est pas Diallo, c'est Deschamps, en fait. C'est lui qui décide.
Ah, ça, vous en doutiez?
Non, mais c'est pas, tu sais, quand Noël Le Graët, la relation qu'il avait à Noël,
mais attention, avec Noël. Voilà, il y a eu Le Graët. Le Graët, Deschamps était considéré comme le fils de Le Graët.
Oui.
Ça, c'est très mal passé.
Okay.
Le Graët, ouais. Le Graët, Zizou. Donc, Zizou, il faut quand même présenter les choses correctement. Tout ce qui touche à Zizou, ça, quand même, c'est un peu brûlant, quand même. Donc, chacun veut y aller de sa petite phrase, de sa petite intronisation, le bon copain, taper sur l'épaule, le machin. Donc, il y a quand même cette notion-là de la part des gens, des décideurs, des gens qui veulent, lorsqu'ils parlent un peu de Zidane, ils prennent toujours beaucoup de pincettes, ils veulent toujours en faire des caisses. Alors, parfois, souvent d'ailleurs, c'est assez ridicule, mais il y a quand même ça. Et Deschamps, il y a quand même eu des tensions avec Zizou quand même.
Est-ce qu'il se parle du gars? Est-ce qu'il se parle un peu de temps en temps?
Il y a eu des tensions ces dernières années, on l'a vu dans la presse. Donc je pense que Deschamps peut vouloir aussi se servir de ce moment-là pour
renouer
peut-être un peu les choses.
Deschamps a dit qu'il s'entend. Du gars, Deschamps a dit en interview, en tout cas sa position publique, c'est on s'entend bien. On n'est pas les meilleurs amis du monde, c'est vrai, mais on a une entente cordiale et on en a discuté même récemment.
Ah, c'est vrai ça?
Ah mais Zizou est un garçon très très bien élevé, je n'en doute pas.
Didier aussi, donc il y a pas de raison que ma foi.
Message sur le numéro WhatsApp, Eric. Bonjour, je suis frère de Didier, je peux vous dire qu'il va partir après la Coupe du Monde. C'est Philippe Deschamps qui m'envoie ça.
Ouais. Et alors moi, je viens d'avoir un message du patron d'RMC qui dit Benoît Boutron, c'est une trompette, il va dégager la semaine prochaine. Est-ce que c'est crédible ça?
C'est crédible. Ouais. Accueillons Christophe, tiens, qui veut participer au débat au 32-16.
Salut Chris.
Salut tout le monde, salut Jérôme.
Ça va Christophe?
Salut Chris.
Bon. Salut Christophe. Salut.
Alors qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'en termes de timing, toi t'annoncerais maintenant que Zidane vient?
Mais je l'annonce tous les jours en fait. De toute façon, c'est plus une surprise. Tout le monde le sait. Tu l'annonces maintenant.
Ça, moi je me le répète tous les matins.
Le débat, et puis après, il s'entend avec Deschamps pour la mise en scène. Et après, ben, l'autre il dit je réponds plus aux questions concernant le successeur et terminé. Puis après, il bosse jusqu'à la Coupe du Monde tranquillou.
Vous croyez pas la théorie de ça perturbe les joueurs?
Non, ça perturbe. Mais les joueurs, franchement, il faut arrêter de prendre les joueurs pour des cons. Les joueurs, ils savent très bien que c'est Zidane qui va arriver après. Donc que tu l'annonces aujourd'hui ou que tu l'annonces dans 6 mois, ça va pas, ou dans 8 mois, ça va pas leur changer leur façon de préparer les matchs avec l'équipe de France. J'imagine pas que là, imagine c'est annoncé la semaine prochaine, le prochain rassemblement. Tu crois que les joueurs ils vont arriver et on dira l'année prochaine?
Non, mais c'est le cinéma habituel. Ça perturbe les joueurs, ils pensent déjà à la suite.
Ça perturbe les joueurs quand tu sais pas que le sélectionneur actuel Il va partir. Là, ça a été annoncé déjà. Donc, tout le monde s'est fait à l'idée que Didier Deschamps arrêtait après la Coupe du Monde aux États-Unis. Donc, la relation qu'il a avec certains, c'est sûr qu'elle est fusionnelle. C'est-à-dire, quand t'as passé 10 ans ensemble, en sélection, que t'as gagné la plus belle des compétitions, c'est-à-dire la Coupe du Monde, bien sûr que ça crée des liens.
Les cadres veulent gagner pour lui. Hein. Mbappé l'a dit, Dembélé l'a dit.
Oui,
l'a
bon,
dit.
Après, il faut pas trop l'annoncer quand même, parce que gagner pour lui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il était pas sûr de partir, il voulait pas gagner. Non, mais ça me fait rire aussi. Gagner pour lui. Et Didier Deschamps et les joueurs, ils ont tout intérêt à être ensemble, à être le plus fort possible, à être dans des meilleures conditions qu'à l'Euro, parce que la dernière grande compétition qu'on a fait avec Didier Deschamps et le staff, bah ça s'est pas très bien passé dans la vie, au quotidien. Donc ça c'est clair, on l'a vu, on l'a noté, on y était avec Jean-Louis. Je me souviens, Jean-Louis, on était sur place, on a noté des rapports qui étaient compliqués, Jérôme, avec certains.
Mais Jérôme, oui. tout à l'heure, tu as parlé du fait que le président, c'est lui qui décide. Le président se couche devant Didier, mais quand même, avec pour service rendu sur sa sortie, on peut quand même juste l'écouter un peu si jamais il a des requêtes. On peut pas essayer de faire les choses proprement par rapport à ce qu'il a fait en équipe de France et pour lui. Parce que que c'est Zizou qui arrive derrière et que voilà quoi, il y a rien de grave si jamais lui dit, ben moi, si on vous annonçait tout après la Coupe du Monde, comme ça m'enlève ce poids-là pendant toute la compétition.
Mais est-ce que c'est pas plus lourd d'attendre? C'est ça, Eric.
Explique-moi pour les joueurs.
Pas, on lui en parle
autant,
c'est pareil,
parce que le problème, c'est pas pour nous. Le problème, c'est pour les joueurs. Est-ce que les joueurs qui savent déjà que c'est Zidane, si c'est annoncé après la Coupe du Monde, juste pas dans les vacances et tout, c'est grave, tu crois?
C'est pas les joueurs, c'est le climat et c'est le contexte.
Le climat de quoi?
Peut le dire, toutes les questions qui sont posées, que Zidane soit officialisé ou pas, ce sera les mêmes. En fait, c'est la même chose.
Mais là, oui, non, mais
pourquoi attendre, en fait?
Que ça change pas.
Pourquoi le faire maintenant? Puisque tu dis que les questions
seront toujours pareilles. Parce que c'est fait, on sera qualifié pour la Coupe du Monde.
Il y aura les mêmes questions pareilles.
Si on le sait pas aujourd'hui, que c'est pas officiel aujourd'hui, c'est parce que Didier ne veut pas que ça soit aujourd'hui officiel. Point final. Donc après, est-ce que c'est perturbant ou pas?
Et Benoît, même si la raison de Didier, tu la trouves.
Oui, toi, tu veux respecter sa volonté.
Ridicule, ou tu dis ça sert à rien, ou tu dis il pourrait. On peut juste là sur son départ l'écouter?
Non, mais oui, bien sûr. De toute façon, tu sais le poids qu'il a, donc, plus que moi.
Donc, puisque Jérôme te dit,
on peut l'écouter encore un peu. Hein.
Voilà. Jérôme te dit, c'est lui qui va décider. Donc, on peut pas lui laisser ça.
Ouais. Merci à Christophe qui est venu au 32-16. Tiens, j'ai un dernier message sur le numéro WhatsApp, le 06-12-424-424. On me dit, je suis l'ex de Jérôme. Attention à Vaïd dans la course pour remplacer Deschamps.
Non, mais tu arrêtes. C'est l'ex de Jérôme.
Ah, moi, je viens de recevoir un message. Je suis le fils caché de Duga.
Ah. Attends,
je peux vous dire que ce qu'il dit, c'est des conneries. Oui.
Voilà. Je regarde. Ah non, je l'ai pas encore celui-là. Il est
impossible.
Pas tombé. C'est impossible. Il déclare tous ses enfants, du gars. Laisse-le tranquille.
Il en a 8.
Exactement. Voilà, grand moment autour de Zinedine Zidane. Dans un instant, la suite des meilleurs moments de Rotten sans flamme avec le procès de Mike Maignan, qui était accusé à l'époque de ne pas être indiscutable en équipe de France. A tout de suite sur RMC.
RMC, les meilleurs moments de Rotten sans flamme.
Benoît Boutron.
Les meilleurs moments de Rotten sans flamme jusqu'à 20h ce soir sur RMC. Jérôme sera de retour dès la semaine prochaine avec toute la Dream Team. On en profite pour revenir sur les moments qui ont marqué cette première partie de saison. À partir de 19h, un grand débat qu'on avait fait avec Jean-Michel Larquet et Jean-Pierre Papin. Est-ce qu'Ousmane Dembélé est un beau ballon d'or? Voilà, c'était un grand moment de la première partie de saison. Pour l'instant, c'est l'heure des procès. Deux procès sélectionnés aujourd'hui. Le premier, celui d'Antoine Griezmann, accusé d'avoir gâché sa fin de carrière. Le deuxième, que vous allez écouter d'ici quelques secondes, le procès de Mike Maignan, qui était accusé le 5 septembre dernier de ne pas être un indiscutable en équipe de France.
RMC, Rotten sans flamme.
J'aime bien quand les gens sont à dos contre moi, ça me permet de travailler encore mieux et de leur montrer qui je suis. Parce que voilà, on oublie les saisons qui passent.
Le procès de Rotten sans flamme.
Tu vois, Benoît, ça tombe petit à petit. Tu ne seras pas le seul visé par les jingles. Cool. Bon, alors, est-ce qu'une concurrence va naître en équipe de France au poste de gardien de but? D'un côté, Mike Maignan, 30 ans, cadre de cette équipe, capitaine de l'AC Milan qui sort d'une saison compliquée. Puis de l'autre, le talent qui monte, Lucas Chevalier, nouveau gardien du PSG, 22 ans, troisième rassemblement chez les A, progression constante. Je rappelle juste la position de Didier Deschamps en conférence de presse lors de l'annonce de la liste. Il maintient le numéro 1 tant qu'il est performant. sûrement, mais logiquement, Lucas Chevalier sera amené à vivre sa première sélection tôt ou tard. Pas tout de suite, mais ça peut arriver si jamais Mike Maignan n'est pas performant. On fait donc son procès ce soir à Mike Maignan. Il est accusé de ne pas être indiscutable en bleu. Deux procureurs, Jérôme Rotten, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Et Younes Belhanda, bonsoir.
Bonsoir.
L'avocat de Mike Maignan, c'est Benoît Costil, bonsoir.
Bonsoir.
Et le verdict sera rendu par Joe au 32-16. Salut Joe.
Salut les amis, ça va?
Salut Joe.
Ah, ça va, bah, on est en t'accueillir. Pleine forme. Écoute ouais. les arguments.
Bah, non, non, pour la première dans l'émission de Jérôme.
Ouais, ah écoute, bah super. Écoute. Encore, et si tu me fais gagner, ça sera encore
mieux. Non, voilà. Pas d'influence sur le juge. Allons-y, monsieur Belhanda. Alors pour vous, il n'y a pas de traitement de faveur. Mike Maignan doit être soumis à la concurrence comme les autres joueurs. Hein.
C'est tous les joueurs de la sélection qui doivent être soumis à la concurrence. Quand tu arrives en équipe de France, tu sers la nation. Donc tu peux être amené à être sur le banc, en tribune. Il y a personne qui est là à jouer 100% ou à être titulaire. Donc je vois pas pourquoi un joueur par rapport à l'autre aurait sa place assurée. Et ça marche pour Marc Maignan, pour Lucas Chevalier, pour Mbappé, pour n'importe qui. Donc bien sûr, tout le monde est soumis à la concurrence.
Tu mets le poste de gardien de but au même niveau que les autres, quoi.
Bien sûr, je le mets au même niveau aussi. T'as le gardien de but qui se troute deux trois fois. Bien sûr que je le mets au même niveau que tout le monde.
T'es d'accord, Jérôme? C'est un peu ton avis. Est-ce que le gardien de but, on doit le soumettre à la concurrence en sélection aussi?
Écoute, pour moi, déjà la sélection, c'est pas pour moi, c'est pour tout le monde pareil, c'est pas un club. Donc là, je suis assez d'accord avec Younes dans sa réflexion. Normalement, déjà, les statuts, c'est particulier. D'avoir un statut d'indéboulonnable en équipe de France, il faut vraiment le travailler pour l'avoir et être une valeur sûre un peu ce qu'est Kylian Mbappé, ce qu'était Zinedine Zidane à une certaine époque. Et il y en a eu d'autres.
Lui, il a ce statut quand même.
Non, mais bien sûr, ou Antoine Griezmann, ou Paul Pogba, tu vois, ces mecs-là, j'en oublie parce qu'il y en a qui ont arrêté, Golioris, Raphaël Varane, tu vois, ces mecs qui ont des carrières incroyables, stratosphériques, et qui font briller la nation et qui font briller l'équipe de France. Donc, moi, je pense que Mike Maignan pouvait rentrer dans ce profil-là. Et là, je parle sous contrôle de Benoît parce qu'il le connaît très bien.
Il va le défendre.
Qui va le défendre. C'est vrai que, et là, je vais dans le sens de Mike Maignan. Je pense que, en effet, quand il a pris la suite du Golioris, il a été très performant tout de suite. Franchement, c'était monstrueux. Limite, on disait, il a déjà fait. Et on a fait des débats hein, dans Rotten sans flash, ouais. Je me souviens. Est-ce qu'il a déjà fait oublier Hugo Lloris? Alors, bon, faut respecter quand même la carrière d'Hugo Lloris, mais il avait mis la barre haute déjà Mike Maignan. Mm. Pas de problème. En plus, champion avec le Milan AC, le transfert.
En fait, c'est dans mon camp, en fait.
Non. Mais je te dis, je trouve que.
Ah, mais tu fais le boulot pour moi.
C'est pour ça. Je pense qu'il faut pas oublier ce qu'il a fait. Mm. Après, il y a un bémol. Ouais. C'est que ça fait 2 ans. On va dire juste depuis l'Euro. Hein, je trouve que, en effet, il est moins décisif. Il est moins décisif, ça se voit. Il dégage moins de sécurité. Je trouve que les buts qu'on peut prendre par moment, la fébrilité de la défense, et Benoît, il peut pas me dire le contraire, c'est il y a la charnière, mais il y a aussi le rôle avec le gardien. Je trouve que voilà, il y a eu un manque de ce côté-là. Alors, est-ce que c'est la faute de Mike Maignan? Est-ce que c'est la faute des deux centraux devant ou les trois? Parce que des fois, on a joué à trois. Je sais pas. Les torts sont partagés, mais n'empêche que je trouve qu'il y a une fébrilité qui se met en place. Et puis surtout sur les gros matchs. Rappelle-toi le dernier gros match qu'il y a eu. Je ne vais pas parler de l'Allemagne parce que c'est pour le match de l'Espagne quand on prend 4 buts, 5 buts, 5-4. Il est loin d'être irréprochable. À côté de ça, t'es obligé de l'analyser comme ça aussi. Tu te dis, oui, bah, il a pris des buts, il est moins irréprochable. En effet, c'est plus le Mac Maignan d'il y a 2 ans. Mmh. En effet. Et puis derrière, tu regardes la concurrence. Je pense que Brice Samba, en effet, a atteint le plafond de verre d'un moment. Il a été tellement performant avec Lens que ça va un peu moins bien. Mmh. Il faut reconnaître, mais il est là dans le groupe. Et puis après, t'as un petit jeune qui explose. Chevalier, qui était à Lille l'année dernière avec la Ligue des Champions et tous les bons résultats de Lille sur la phase du mini-championnat le doivent beaucoup aussi et les exploits beaucoup à Lucas Chevalier avec les miracles qu'il a pu faire. Allez. Et surtout, aujourd'hui, Lucas Chevalier est dans le meilleur club du monde ou le meilleur club européen. le Paris Saint-Germain et il est titulaire. C'est pas juste en concurrence, il est titulaire. Donc ça,
ça
veut
ça
dire
peut compter. Ça,
bah, dans sa progression, bien sûr que lui, je pense, alors, autant il y en a certains qui ont atteint le plafond de verre, lui, il va continuer sa progression et que là, il est en train de grappiller, voire dépasser un peu Mac Maignan. Donc c'est normal que il y ait un doute dans ce rôle de gardien de
but. Allez, parole à la défense, Maître Costil.
Bon, aujourd'hui, quand on regarde les performances en bleu de Mac Maignan, je vois pas ce qu'on peut lui reprocher. Alors certes, il y a le match de l'Espagne où il en prend 5. Peut-être qu'il peut mieux faire sur certaines situations. Je suis d'accord. Maintenant, c'est pas un match qui va remettre tout ce qu'il a pu faire en équipe de France. Donc, en termes de performance, est-ce qu'il est indispensable? Non. Comme tous les joueurs, personne n'est indispensable. Est-ce qu'il est indiscutable? À mon sens, oui. Il a aussi à côté de cela, au-delà de ses performances, un rôle de cadre dans le groupe où lui, je pense que c'est un vrai cadre. Une sorte de, en gros, c'est le papa de l'équipe de France. Il est respecté de par ce qui dégage sa personnalité, de par son exemplarité dans le travail. C'est quelque chose qui a ce rôle de leader naturel et il n'est pas capitaine de l'AC Milan par hasard non plus. Et ce qu'il a réussi à faire depuis le départ à la retraite internationale d'Hugo Lloris, je trouve ça assez fort. Donc c'est une grosse personnalité et en termes de performance, je vois pas ce qu'on peut lui reprocher. Et il va nous le montrer sur l'année à venir et sur la Coupe du Monde. La problématique, elle est qu'aujourd'hui, on a un gardien qui est pour moi très très fort. Et je sais si je l'aime beaucoup, que ce soit sportivement ou humainement, c'est Lucas Chevalier. Mais laissons le temps aussi à Lucas Chevalier, déjà d'une, de s'adapter au Paris Saint-Germain. C'est un environnement qui est tout nouveau.
C'est vrai.
Et il faut lui laisser un petit peu de temps. Il faut le laisser un petit peu de temps aussi dans sa vie dans le groupe France. Certainement, et Didier Deschamps l'a dit, il va certainement vivre sa première sélection dans l'année, vivre sa première expérience en compétition internationale l'été prochain via une Coupe du Monde. Donc je dirais que jusqu'à la Coupe du Monde, ne venons
toi,
pas chercher
pas,
des petits... Moi je bouge pas, je bouge pas parce que déjà d'une sportivement, Mac Maignan a répondu présent, et de deux, certainement que le futur gardien de l'équipe de France, il est là, c'est Lucas Chevalier.
Et il a le temps.
De plus... il y a le temps. En plus, il y a une proximité entre les deux joueurs qui se respectent énormément et sont connus à Lille.
C'est vrai.
Et donc, la transmission, elle va se faire naturellement. Naturellement. Non pas chercher des poux à droite, à gauche ou quoi que ce soit.
La solidarité des gardiens, voilà.
Oh, bah, les poux en
non, 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 mais très honnêtement, je dirais la chose. Mais aujourd'hui, je vois pas comment sportivement on pourrait reprocher ou remettre la place de Mac Maignan en cause.
Le verdict de Joe, alors. Joe, qui remporte ce procès?
Merci, Joe. Bravo.
Pour moi, c'est l'équipe Younes et Jérôme.
Ok. Ouais,
D'accord.
C'est sûr.
Je vais donner
quelques secondes, vas-y.
Vas-y.
Je vais quand même donner mon argument parce que pour moi déjà Lucas Chevalier il va jouer une saison au haut niveau avec beaucoup de matchs, il va jouer la Ligue des Champions, il va être confronté aux meilleurs attaquants, tandis qu'à côté Mac Maignan lui va avoir une saison plutôt calme à l'AC Milan et selon Didier Deschamps, selon ses dires, je l'ai entendu plusieurs fois dire qu'il faut jouer la Ligue des Champions, il faut être confronté au haut niveau pour pouvoir s'assurer une place dans le groupe. Ben là, je pense que si on en toute légitimité, je pense que Chevalier il mérite sa place de titulaire pour cette saison et pour aller jusqu'à la Coupe du Monde, il sera prêt parce qu'il aura joué la Ligue des Champions selon moi.
Le verdict de Joe, merci. Bravo, Joe, c'est donc Younes et Jérôme qui remportent ce procès autour de Mac Maignan. Pourtant, t'as été bon.
J'ai pris un 2-1, j'ai pris un pressing tout terrain.
Bravo,
mais c'est totalement. Je peux pas croire en la justice. Là.
Non, là, allez. T'as pris un corner rentrant de ma part.
RMC, Roten sans flamme.
Moi, on m'a appris que quand je ne savais pas, il valait mieux que je me taise. Un Uruguayen qui est vaillant comme
le procès de Roten sans flamme.
On ne le saura jamais.
On ne le saura jamais.
Non.
22 matchs, 238 jours sans marquer un but. En Liga, on ne reconnaît plus Antoine Griezmann, légende de l'Atlético et de l'équipe de France.
C'est dur.
Il est souvent cantonné à un rôle de remplaçant cette saison. Il a 34 ans. Il a marqué 198 buts en championnat d'Espagne. Il espère atteindre le total des 200 buts. Rappelons qu'en juin dernier, il a prolongé jusqu'en 2027 avec son club de cœur. Demain, c'est le derby de Madrid au Wanda Metropolitano à suivre à 16h15 sur RMC. Mais ce soir, on va donc ouvrir le procès d'Antoine Griezmann qui va être accusé de gâcher sa fin de carrière. Le procureur, c'est monsieur Jérôme Roten. Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Deux avocats, Maître Larquet et Costil. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir. Bonsoir. Monsieur, bonsoir.
Et quelle tristesse, le verdict quelle qui tristesse. Sera rendu par injuste. Un ami, un auditeur fidèle, Alexandre, notre supporter de Valenciennes. Salut Alexandre.
Bonsoir messieurs.
Sois le bienvenu Alexandre.
Bonsoir, Alexandre. Là,
j'espère que tu vas être objectif.
Ah, je suis mal barré.
Vas-y Jérôme, qu'est-ce que tu reproches à Antoine Griezmann sur le sujet de sa fin de carrière alors ?
Bah, en fait, tu viens de le dire. Les statistiques sont très difficiles pour Antoine. Moi, je fais partie de ceux déjà qui pensent qu'il a fait une bêtise en annonçant sa retraite internationale. Mais ça a éprouvé un mal-être et surtout, peut-être dans sa tête, il sentait aussi que il était moins performant et qu'il pouvait moins faire les efforts qui sont nécessaires de rester au très haut niveau. Et ça se confirme par rapport à sa saison dernière, comment elle s'est passée. J'ai trouvé l'année dernière, quand il annonce donc sa retraite internationale, que on est tombé dans un Antoine Griezmann à l'image de son club qui est dans l'anonymat le plus complet, quoi, tu vois. À l'arrivée, t'as Barcelone, le Real Madrid qui ont fait parler d'eux, en bien et en mal par moment pour le Real, en très bien pour Barcelone, mais que l'Atlético Madrid, ils n'existent plus à l'image d'un Valence, à l'image d'un Séville, à l'image d'un Villarreal. Et franchement, quand tu vois les moyens qu'il y a à l'Atlético Madrid et ce qu'ils ont mis en place sur les dernières années, pour moi, c'est une anomalie. Mais c'est comme ça, c'est la vérité. Et je pense très honnêtement qu'il a fait une énorme bêtise de vouloir continuer encore un an à l'Atlético Madrid pour battre peut-être ce record de 200 buts.
Atteindre les 200 buts en Liga.
Pas un record, mais atteindre les 200 buts en Liga. Peut-être se faire plaisir encore une année. Mais le problème, c'est que le plaisir, tu l'as quand t'es sur le terrain et quand t'es performant sur le terrain. Tu peux pas l'avoir dans cet Atlético-là. Parce qu'en plus de ça, en plus de plus être un titulaire dans cette équipe, ou un titulaire à part entière, bien sûr qu'il jouera des matchs, il en a joué depuis le début de saison, il en a fait que deux titulaires, ils sont ce qu'ils sont, ces matchs-là, mais ils sont un peu neutres, et quand tu t'appelles Antoine Griezmann, et que tu vois les dernières performances l'année dernière, tu peux aussi te dire, oui, cette équipe, elle fait mal au cœur. Rappelle-toi, il y a eu une déclaration, sur Antoine Griezmann, ouais, d'un joueur qui a joué avec lui et qui disait, un joueur qui a arrêté, qui disait, ça me fait mal au cœur de voir Griezmann dans cette équipe-là jouer de cette façon-là. Moi, c'est le retour que j'avais et que je mettais souvent en avant quand je le voyais jouer avec l'équipe de France où il jouait très bas. Et pour moi, c'était contre nature. Alors bien sûr qu'il fait des efforts, il en a toujours fait, mais aujourd'hui, je trouve que il arrivera plus à retrouver son dynamisme, ce qui a fait de lui un des meilleurs joueurs du monde, c'est-à-dire être très efficace, avoir le geste juste, la bonne patte, la bonne vision. Je trouve qu'il est rentré dans le rang à l'image de son entraîneur et de son club, et que en effet, donc quand je dis que il gâche, façon de parler, gâché. Mmh. Attention, il joue à l'Atlético Madrid, il a un énorme salaire, la carrière.
C'est une légende là-bas.
La carrière, elle est exemplaire. Moi, je dis juste qu'à 34 ans, il en a encore dans la chaussure, à mon avis. S'il avait voulu rester dans un championnat majeur, il aurait pu aller ailleurs qu'à l'Atlético Madrid. Et il fallait avoir, en effet, le courage de dire stop. Cette année, ça va être l'année de trop avec Diego Simeone, qui lui aussi, je pense qu'il fait les années de trop, de toute façon. Donc, je vais aller voir ailleurs, dans un championnat, peut-être que je ne connais pas, mais je vais le découvrir.
Tu vas devenir à l'OM.
Et pourquoi pas? Mais après, il faut faire des concessions. Il faut faire des concessions financières. Il faut faire des concessions. Mais je pense que il avait besoin d'un challenge comme ça, avec une ferveur particulière pour rester au très haut niveau. Ou sinon, si tu te sens pas capable, parce que sa fin de carrière vraiment internationale me laisse perplexe sur le moment où il l'a mis en place. Peut-être que au fond de lui, il sait ce qu'il a mis en place tout au long de sa carrière et surtout au début pour y arriver.
Allez.
Et pour déjouer tous les pronostics, peut-être que ça, il est plus capable. Et ben, si c'est le cas, alors, c'est quoi? Il fallait aller outre-Rhin et partir aux États-Unis. Et pour l'instant,
gagné,
moi je pense vraiment que son année va être très compliquée et que ça va nuire un peu à son image. Et c'est dommage.
Heureusement que le verdict n'est pas en fonction du temps
pris
pour la parole.
Vas-y, parle plutôt.
Simplement dire que il a commencé il y a 16 ans ou 17 ans aujourd'hui dans sa carrière, Et oui, mec, et le crépuscule, il arrive pour tout le monde. Et aujourd'hui, Antoine, c'est le crépuscule d'un grand joueur, d'un immense joueur. Il ne retrouvera pas et il ne retrouvera jamais les jambes qui ont fait de lui un garçon qui, en même temps, a pu jouer en pointe ou deuxième attaquant ou même milieu de terrain.
Au numéro 6.
Au numéro 6, c'est comme tu veux. Il n'y arrivera plus. Mais les années passent. Il n'y arrivera pas. Et moi, je ne vais quand même pas reprocher Antoine Griezmann, qui est parti de la Real Sociedad. On lui prédisait le pire lorsqu'il est parti à l'Atlético de Madrid avec Simeone. On disait il ne s'y fera pas parce que ça va être trop dur pour lui.
Tu sais qui a dit ça?
Ah oui,
à l'époque, il y a des critiques.
C'est ceux qui se disaient. C'est ceux qui se disaient. Mais peut-être que, à l'époque, tu ne t'intéressais pas à la carrière de Griezmann. Et après, il a fait le choix de partir à Barcelone avec le succès que l'on sait. Bon. Il est revenu dans le club qui a fait de Griezmann ce que Griezmann a fait dans le football et espagnol et français. Bon, et bien il termine un petit peu en roue libre. C'est plus compliqué pour lui. Il est moins rapide, il saute moins haut, il a moins de VO2 max. Et c'est un petit peu normal, mais ça n'enlève rien.
Il n'a pas 40 ans, il a 34 ans.
Mais il a démarré jeune, c'est vrai.
Il a commencé à 18 ans.
Rajouter, vas-y Benoît.
Peut-être qu'il a un petit peu moins de carburant, mais son pied gauche, son intelligence de jeu, ça prend pas d'âge, ça vieillit bien, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il a encore faim? J'en doute absolument pas, on pourrait se poser la question, mais sinon il serait parti aux États-Unis ou en Arabie Saoudite. Je pense que lui qui est un amoureux des États-Unis, il aurait pu y aller cet été, il a décidé de poursuivre l'histoire d'amour avec l'Atlético. Et je dirais que c'est même pour l'amour du football, parce que lui, il est resté à l'Atlético. Il a tout le temps encore d'aller aux États-Unis. Les États-Unis l'attendent les bras ouverts. Il ira où il veut là-bas. Et puis bon, il a quand même prolongé jusqu'en deux ans, début juin, je crois. À mon avis, il le sait.
L'Atlético la sera libre, voilà.
Voilà, il a une relation particulière avec le club, avec Diego Simeone. Donc du coup, je pense que ça, ce choix, s'il doit faire un choix à un moment donné, ça se fera entre gens intelligents.
Bon.
Et puis, il faut voir aussi la concurrence qu'il a devant lui. Hein. C'est Sörloth, Simeone.
Et Julien Alvarez. Et ouais, bien
sûr. Raspadori, ouais. Non, mais Alvarez,
c'est toi qui l'as cité, Jérôme.
Non, mais c'est impressionnant. Raspadori, c'est...
Allez, personne ne l'a cité.
Raspadori va être ballon d'or.
Est-ce que c'est Jérôme ou est-ce que c'est Jean-Michel et Benoît qui remportent ce procès, Alex?
Il m'a suffi d'écouter Jérôme pour donner la victoire au camp d'en face.
Voilà. Je t'avais dit.
Parce que
c'est un Valenciennois et il est supporter de Steve Savidan. Vas-y, pardon.
Parce que sa retraite internationale, c'est pas de sa faute, c'est de la faute directement de Deschamps et indirectement de Mbappé. Ensuite, s'il avait jamais pris de plaisir à l'Atlético, il y serait jamais retourné après avoir quitté le Barça par la petite porte. Et ensuite, l'Atlético, Simeone, c'est tellement physique que où qu'il aille, par définition, il retrouvera jamais son dynamisme d'antan. Mais ces maigres restes, qui sont de beaux restes, font que, comme l'a dit Tony, au pire, il pourra toujours vivre son rêve américain.
Tony,
mais en attendant, toi qui es attaché...
C'est vrai qu'il se ressemble un peu.
Jérôme
Oui, je suis là.
Toi qui es toujours attaché au sentiment d'attachement d'un joueur à un club,
Jean-Michel Larquet. Benoît et Jean-Michel remportent ce procès.
Mais on a gagné aussi grâce à nos arguments.
Vous
avez rien gagné du tout.
Dans un instant.
Non mais on va suivre l'année. Par contre, s'il met deux buts cette année, on en parlera.
Les procès de Rotten sans flamme toujours aussi mythiques. Et dans un instant, autre séquence forte. Allô Jérôme, avec là aussi deux intervenants qui nous avaient rendu visite. Le premier, Florentin Pogba, qui était venu nous donner des nouvelles de Paul, son frère Paul Pogba, le 4 septembre. Et puis le deuxième, c'était le coup de gueule de Pierre Dorian, animateur du Super Moscato Show. A-t-on encore le droit de critiquer le grand Kylian Mbappé? A tout de suite sur RMC.
RMC, les meilleurs moments de Roten sans flamme.
Benoît Boutron.
Les meilleurs moments de Roten sans flamme jusqu'à 20h ce soir sur RMC à partir de 19h. Un débat qui avait marqué donc cette première partie de saison avec Jean-Michel Larqué, avec Jérôme Roten, avec Jean-Pierre Papin. Est-ce qu'Ousmane Dembélé est un beau ballon d'or? Voilà, c'était un moment très fort. Et puis à 19h30, vous réentendrez une interview très sympa, celle d'Éric Roy, qui revenait d'ailleurs sur la magnifique saison du Stade Brestois. Mais tout de suite, c'est le Allo Jérôme avec deux thèmes différents. Florentin Pogba, qui nous donnait à l'époque des nouvelles de Paul. Et puis le coup de gueule de Pierre Dorian. Est-ce qu'on peut encore critiquer Kylian Mbappé?
RMC, Roten sans flamme.
Allo Jérôme.
Un acteur du foot qui s'invite dans Roten sans flamme tous les soirs. Ce soir, on est ravis d'accueillir Florentin Pogba. Salut Florentin.
Salut Florentin.
Bonsoir. Salut, bonsoir Florentin. À tous.
Bienvenue.
Comment allez-vous?
Un plaisir de t'accueillir dans Roten sans flamme.
Merci, c'est gentil.
Bon,
de même.
Bon, comment tu vas?
Plaisir. Bah écoutez, nickel, hein, tout va bien. Je sors de l'entraînement là en pleine forme. Bon, le match pour demain.
Un bon exemple pour toi parce que tu es passé par la case UNFP. On rappelle, hein, défenseur passé notamment par la Saint-Etienne, par Sochaux. Tu étais en Belgique l'année dernière. Là, tu viens de signer dans un club de National 2, le Stade Poitevin. Le stage à l'UNFP. C'est donc, tu as trouvé un club. Donc, t'es ravi d'avoir arrangé ta situation entre guillemets.
Oui, bah après, je sais que cette période-là de l'UNFP est assez compliquée, mais aussi enrichissante, parce que ça te permet voilà, de te mettre en condition pour un éventuel transfert ou pour retrouver un club. Et voilà, ça s'est fait dans de bonnes conditions. C'était un peu long, le stage, parce que j'ai fait quasiment tout le stage. Mais au final, voilà, j'ai trouvé mon club et voilà, aujourd'hui tout se passe bien et voilà, j'espère que ça va continuer comme ça.
Et ils sont ravis de pouvoir compter sur ton expérience. Bon, Florentin, l'événement de l'été, c'est le retour de Paul, ou plutôt l'arrivée de Paul en Ligue 1, parce qu'il avait quitté Le Havre à 16 ans. Là, il débarque à Monaco, c'était l'attraction de l'été. Il est en train de se remettre en forme. Est-ce que tu peux déjà nous donner des nouvelles? Comment il va? Est-ce qu'il est...
Déjà, merci de l'avoir conseillé de revenir en France.
Et voilà, déjà, c'est vrai.
c'est gentil. Non, après, c'est sûr que ça fait toujours plaisir de revoir mon petit frère reprendre déjà les sensations, ouais. S'entraîner avec un groupe. Voilà, ça a été une très très longue durée sans football pour lui. Donc voilà, ça lui a fait du bien, ça nous fait du bien. Ça fait du bien à la France et j'espère que voilà, il va reprendre tout doucement mais sûrement. C'est ce qui est plus important parce qu'on veut du long terme maintenant. Et là, il reprend tout doucement avec le groupe. Je l'ai eu hier, il m'a dit que voilà, là c'était la trêve, donc il avait 2-3 jours de repos et qu'il reprenait après des entraînements avec le groupe. Mais en tout cas, voilà, tout se passe bien sur sa reprise et j'espère au plus vite qu'il retrouve les terrains.
Et information importante,
monde, je pense.
Il a été inscrit par l'AS Monaco sur les joueurs qui peuvent participer à la Ligue des Champions.
Ah bah, il manquerait
Monaco,
plus que, il manquerait plus que non.
Franchement, il manquerait plus que ça, mais bon, non, c'est vrai que ça fait toujours plaisir de savoir que voilà, il compte sur lui. Le coach compte sur lui et ça va être un joueur d'expérience parce qu'il y a beaucoup de jeunesse, mais de talent aussi à Monaco. Donc voilà, je pense qu'il fera vraiment un bon pilier pour cette équipe cette année.
Moi je pense que je te confirme ça parce que bon, j'étais en vacances dans la région, je suis passé les voir quelques fois, j'ai échangé avec Paul aussi il y a pas si longtemps que ça et c'est vrai que j'ai regardé ses séances un petit peu et je vois qu'il se rapproche de son niveau, il se rapproche du groupe, il se rapproche du terrain.
Tu m'as dit techniquement c'est pas mal hein.
Ouais, je pense que bon de toute façon moi j'en doutais pas hein, vous connaissez ce que je pense de la carrière et du niveau de Paul, mais en tout cas Florentin, moi je pense que tu es là aussi pour aller dans ce sens-là. Physiquement, il est quand même très affûté pour quelqu'un qui a pas joué depuis 2 ans.
Ouais. Après moi je l'ai vu, en plus j'ai vu chaque période. Je l'ai vu quand il est monté à peu près à 97-98 kilos.
Ah ouais.
Ça c'était la première année. Et oui. je l'ai vu en fait descendre, je l'ai vu s'affûter, j'ai pu tout voir et aujourd'hui ça fait plaisir de le voir comme ça parce que comme je lui ai dit toujours, s'entraîner tout seul et s'entraîner avec un groupe, c'est deux mondes différents. Mmh. Donc là retrouver un groupe, retrouver les sensations, retrouver le fait de t'entraîner avec quelqu'un, te retrouver des joueurs à tes côtés, c'est pas pareil. Tout de suite c'est plus vivant, c'est plus réaliste que t'entraîner tout seul, faire des courses tout seul. Faire des travailler tes appuis tout seul, c'est bien parce qu'il faut, mais c'est pas la réalité.
Ah oui.
Réellement. Donc là, ça fait vraiment du bien de le voir comme ça et j'espère vraiment que il fera plaisir à tous nos Français et à la famille.
On n'a pas de raison. Bah ouais.
Il n'y a vraiment pas de raison.
Merci Florentin d'être venu dans Rotten Sans Flamme. Écoute, on était ravis de t'accueillir. Tu reviens quand tu veux. Florentin Pogba, ouais, donc, qui nous a donné deux scénarios de Paul. Ouais. À bientôt sur RMC.
Merci, écoute, Florentin. Merci Florentin. Merci, à bientôt, merci, et bon, merci, courage pour ta nouvelle expérience.
Wow. RMC, Rotten Sans Flamme.
Allô Jérôme.
Tous les soirs, un acteur du foot s'invite dans Rotten Sans Flamme à 18h45. Ce soir, c'est Pierre Dorion, le présentateur du Super Moscato Show.
Oui, oui, bonsoir à tous. Un acteur du foot.
Vous faites un grand honneur parce que normalement, c'est des gens très influents.
Quand même.
Donc ça veut dire que peut-être ma voix porte.
Tu sais que JPP a méprisé Dugas et Jérôme dès le 18h. Il a dit oui, vous connaissez un peu le foot. Parfois, il doit te mépriser grave.
C'est possible, il n'y a pas de problème.
Alors le thème, c'est Kylian Mbappé, Pierrot, et son match d'hier. Un but sur penalty, une passe décisive, mais pas mal de déchets dans le jeu. C'est la question que tu te posais ce matin, ça t'a rendu fou. Est-ce qu'on a encore le droit de critiquer Mbappé? Tu as vu les notes qu'il a obtenues.
Il faut pouvoir critiquer Mbappé et en général, les icônes du sport français. J'ai l'impression que parfois, quand on touche à certains, c'est un crime de lèse-majesté. C'est-à-dire que il faut pas dire quand les tout meilleurs, parce que c'est vrai qu'il fait partie des tout meilleurs, sont moins bons. Mais moi, je dis c'est absolument nécessaire. C'est vital pour l'équipe de France si on veut être champion du monde de critiquer Mbappé quand il est critiquable, et c'est pas gratuit ce que je dis. C'est dans le jeu. Et là, je vais pas m'en prendre à Mbappé, je m'en prends aux commentateurs. J'ai vu hier un match, Jean-Louis très moyen de l'équipe de France, et encore plus moyen de son capitaine. Je l'ai vu perdre un nombre incalculable de ballons. Dans le jeu, c'était un trou noir, c'est-à-dire qu'il ne ressortait jamais rien de ses prises de balles, jusqu'à ce qu'il mette un pénalty et qu'il délivre une passe décisive sur un 3 contre 1 sans opposition. Bravo, mais heureusement encore qu'un joueur de ce niveau-là sait faire cette passe-là. On n'a pas quand même s'enflammer sur ce but-là. Bravo, il a fait ce qu'il fallait faire et c'est très bien. Ça ne mérite absolument pas la note de 8 sur 10 pour RMC Sport, ni celle de 7 sur 10 pour l'équipe, ni tous les commentaires laudateurs que j'ai entendus hier soir. J'ai dit, dans le match, il m'a fait un match abominable. Je suis désolé. Et alors, comme j'étais un peu seul contre tous ce matin quand j'ai lancé ce sujet.
Les bons sont forts, attention.
Je suis allé voir des stats individuelles du joueur sur le match d'hier. Un but, une passe. Celui bravo.
Damien Comoli.
Alors attention. Ballon perdu, 13, pas 5, 13. Dribble réussi, 0.
C'est Monsieur Opta, là.
Duel gagné, 0. Alors, expliquez-moi comment, quand t'es attaquant, t'es à moins de 50% de duels gagnés, c'est pas forcément grave. Ouais. Les défenseurs gagnent plus de duels, c'est pas, mais quand t'es à 0 et que t'es un attaquant, comment tu fais pour peser sur un match?
Marquant un but, passe
en profondeur. Et tu cours. Donc, excusez-moi, c'est totalement insuffisant. Et en fait, moi, je m'en prends pas à Mbappé, mais, il faut être capable de critiquer ses idoles. Parce que si t'es dans un projet d'être champion du monde, on le souhaite tous, et moi le premier, je ne souhaite qu'une chose, c'est qu'il retrouve son niveau de 2022, qu'il éclate tout le monde, qu'il nous mette 3 buts en finale et qu'on soit champion du monde. Aujourd'hui, moi, de ce que je vois, il n'en est pas capable. Donc, pour le sélectionneur, il construit son projet de jeu autour de Kylian Mbappé, pourquoi pas, même si ça fait quand même 2-3 ans qu'il a plus de mal. Mais maintenant, si arrivé à la Coupe du Monde, il faut tirer le constat que Mbappé n'est plus capable de porter cette équipe sur ses épaules. Il faut un peu s'adapter. Moi, je demande pas à sortir Mbappé, c'est pas du tout ça. Mais si ses capacités ne sont plus en rapport avec son statut, il faut juste modifier un peu son statut.
Moi, je trouve que tu tombes dessus sur le match d'hier. Bien sûr qu'il n'a pas fait un grand match hier. C'est le premier qui est conscient de ça. Moi, ce qui m'a rassuré, et j'avais fait un avis avant le match hier, comme quoi je vais pas porter chance sur sa prestation, mais je trouve que vendredi, le match contre l'Ukraine, je l'avais trouvé très bon. Très bon dans son état d'esprit, dans ses courses. Je trouve qu'il a retrouvé beaucoup de peps, beaucoup de jus par rapport à l'année dernière. Tu vois. Et donc, quand physiquement, ce mec-là est bien, et tu viens de le dire, ça fait partie des meilleurs joueurs du monde quand même. Là, je trouve qu'il est redevenu dans cette catégorie-là. Il était sorti de là. C'est vrai que le match d'hier, il faut reconnaître qu'il est pas bon. Il a reculé encore de 2 par rapport à sa prestation de vendredi. Mais est-ce que hier, il est tout seul face à une équipe où tu viens de le dire, la seule fois où il est dangereux, c'est parce qu'il prend de la profondeur et tout ça. Et là, c'est quand les Islandais étaient très hauts, et ben ils se font contrer et il fait cette fameuse passe décisive. Sinon, il n'y avait pas d'espace. Il est venu décrocher et c'est quelque chose qui, à mon avis, ne lui correspond pas du tout. C'est pas Neymar quand il vient décrocher, contrairement à ce qu'il pouvait faire il y a quelques années au PSG. Donc, en effet, il doit être dans un rôle de serial buteur. en fait, ou un buteur de surface. Mais on a fait le débat avec Jean-Pierre, avec Dugas la semaine dernière là-dessus. Est-ce qu'il sera capable d'évoluer et d'être dans cette configuration-là contre des équipes qui sont très regroupées? La preuve que non, pas encore. Pour l'instant, c'est insuffisant.
Voilà. Dugas.
Ouais, alors moi les leçons de Monsieur Dorian pour me dire comment il faut que je commente et comment il faut que je j'analyse le football, je me les mets là où je pense. Ouah, déjà je commence par ça.
J'attends impatiemment la suite du coup.
Voilà. Une fois que ça s'est dit, non, pour être un peu plus sérieux, je pense pas que dans notre émission dans Rotten sans flamme ou ailleurs, notamment sur RMC, on se gêne pour dire quand Mbappé n'est pas bon. J'ai pas ce sentiment là. Après c'est peut-être le cas et c'est peut-être une généralité que veut faire que tout le monde veut faire. Moi alors je trouve que c'est tout à fait logique ce que tu dis et je suis totalement d'accord avec toi. Je partage ton avis à 200%. Après c'est plus difficile à faire pour les supporters. Les supporters, ils ont beaucoup de mal. Moi, j'ai par exemple des souvenirs sur Ronaldo. Tu prends Ronaldo avec le Portugal. Aujourd'hui, il n'y a que ses stats qui comptent. Aujourd'hui, tu vois les matchs d'accord. de Ronaldo. C'est vrai que l'opinion publique a beaucoup de mal à faire ça. Et quand tu es consultant ou observateur pour critiquer ces personnes-là, il faut faire preuve d'un certain courage qui n'est pas donné à tout le monde. Mais moi, je suis entièrement d'accord sur le fait que c'est plus important. Et tout à l'heure, on en parlera des statistiques. C'est aussi important, on va dire plus important, mais tout au moins aussi important de parler du contenu du match, de l'attitude, des choses qui sont parfois un peu imperceptibles et qui ne rentrent pas dans les statistiques. C'est aussi important, surtout quand tu as un statut aussi important et quand tu as un joueur aussi important qui est censé te faire gagner des compétitions. Alors, on va au-delà de ces statistiques, c'est une priorité. Mais voilà, je suis d'accord avec Pierre sur l'idée qu'on doit pouvoir critiquer et dire par moment du mal quand ils sont pas bons, même les très grands joueurs, même les légendes. Il n'y a pas de souci avec ça.
L'avis d'un ballon d'or, Jean-Pierre Papin, alors.
Non, mais messieurs, vous avez 200% raison. Bien évidemment que la critique fait partie du jeu. Elle permet de faire avancer les choses. La résilience, pour moi, c'est certainement la valeur la plus importante. Et j'espère que Kylian s'en sert. Maintenant, le monde dans lequel on vit aujourd'hui dans le football, c'est qu'on se contente de peu. Bien évidemment, quand on regarde les stats, elles sont très moyenne, voire insuffisante pour un joueur comme Kylian Mbappé. Mais à la fin, il a marqué un but, il a fait une passe décisive. Et pour beaucoup, ça suffit. Bien évidemment, pour nous, ça suffit pas parce que quand on connaît le joueur, quand on connaît ses qualités, quand on sait ce qu'il est capable de faire, il en manque un peu quand même à la sortie. Mais aujourd'hui, on vit dans un monde où on se contente de peu et que une passe D et un but, ça suffit à faire balancer les choses.
Après, bon, t'as Guéguia Pirot sur les notes alors qu'il a fait un but, une passe D, que tu gagnes 2-1.
Non, mais Jean-Pierre, c'est pour ça qu'il y a Jean-Pierre, là où t'as raison, où on se contente de peu, et après je redonne la parole à Pirot, mais là, t'as totalement raison sur le fait que, en effet, sur l'analyse du match d'hier, même de Didier Deschamps, ce que je peux te dire, quand on te dit que l'équipe de France, contre l'Islande, elle doit faire bien mieux et les mettre encore plus en difficulté, c'est à travers des performances XXL des joueurs comme Kylian Mbappé.
Bien ben sûr. Oui, Pierrot, le mot de la fin. J'ai deux trucs. L'exemple de Cristiano, c'est le meilleur en comparaison de ce que j'ai dit sur Mbappé. D'ailleurs, on en a parlé ce matin, Benoît. C'est que c'est encore plus difficile, bien sûr, de sortir Cristiano, mais là, il est vraiment sur la fin, Cristiano. Le Portugal, ils ont une génération peut-être pour être champion du monde. Moi, je pense qu'ils ont tout intérêt au moins à ouvrir le débat, à se poser la question, est-ce qu'aujourd'hui, finalement, Cristiano n'est pas plus un handicap pour être champion du monde qu'un atout? Eh bien, c'est exactement le même débat. C'est-à-dire que c'est l'icône.
Sauf qu'il y en a un qui a 40 ans et l'autre qui en a 26.
Exactement. La question doit encore plus se poser pour les Portugais, je pense, s'ils veulent être champions du monde. Et enfin, le contre-exemple de ce que j'ai dit, c'est Karim Benzema. Il n'a pas besoin de faire des stats pour faire des bons matchs.
Ça va rentrer dans notre débat de 19h. Merci Pierrot d'être venu. Tu reviens quand
Pierrot,
tu veux.
Pierrot, tu reviens quand tu veux.
Salut Pierrot.
J'ai compris, il m'a dit, du gars, j'ai pas le statut.
Non, Pierrot, pour faire Pierrot, tu sais quoi, tu reviens quand tu veux. Cette année, j'ai envie de te farcir.
C'est pas grave. Merci Pierrot, bonne soirée.
Super Moscato Show demain 15h.
Duel au Giro, on va retrouver tous les jours à 18h45 sur RMC et en podcast sur la chaîne Rotten sans flamme sur les différents plateforme de téléchargement. Dans un instant après 19h, un grand débat dans Rotten sans flamme à revivre. Dembélé est-il un beau ballon d'or? À tout de suite.
RMC, les meilleurs moments de Rotten sans flamme. Retrouvez Rotten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.